Vivre FM podcast.
Et jusqu'à 11h30 dans Vivre FM, c'est vous. On parle de femmes aujourd'hui, de femmes entrepreneurs ou entrepreneuses. On va voir dans un instant comment elles préfèrent être nommées. Elles sont aujourd'hui au micro de Vivre FM car elles ont participé à Créatrices d'Avenir, un concours dédié à l'entrepreneuriat des femmes organisé par Initiative Île-de-France. Ce sont donc des femmes d'exception qui ont été distinguées ou qui ont participé à ce concours Créatrices d'Avenir. Et nous en avons plusieurs autour de cette table. Alors je dis bonjour à toutes et bonjour à Rudy Deblaine. Bonjour Rudy.
Bonjour.
Rudy, vous êtes délégué général d'Initiative Île-de-France qui organise ce concours Créatrice d'Avenir. Vous êtes accompagné de lauréates, Leslie Marel, fondatrice de Biomarel. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Leslie. Donc vous êtes lauréate dans la catégorie innovation. Et puis vous êtes accompagnée d'Annabelle Grosset. Bonjour Annabelle.
Bonjour.
Vous êtes lauréate dans la catégorie entreprise responsable. Vous êtes accompagnée de Geneviève Caillé. Bonjour Geneviève.
Bonjour.
Fondatrice d'Actif, avec un H, Actif. Alors, vous avez participé à ce concours également et vous allez intervenir au cours de cette émission. Alors, on dit entrepreneur ou entrepreneuse ? Je m'adresse à vous trois.
Femme active.
Alors, il faudra parler bien près du micro, hein, toutes les trois, et tout, même vous, Rudy. Donc, Rudy Deblaine, ce concours qui a été organisé par Initiative Île-de-France, c'est dédié aux femmes, et pourtant, Initiative Île-de-France, c'est dédié à tous les entrepreneurs et entrepreneuses, pas seulement aux femmes.
Complètement. Le réseau Initiative, c'est un réseau qui accompagne et qui finance les entrepreneurs de manière générale, qu'ils soient des hommes ou des femmes, effectivement. On accompagne en amont et en aval après la création et puis on finance avec des prêts d'honneur à taux 0%. L'objectif, c'est bien d'accompagner l'individu chef d'entreprise et de l'aider à réussir son entreprise avec des prestations, entre guillemets prestations, parce que tout est gratuit chez nous en tout cas, d'accompagnement à finaliser le plan de financement, de suivi de l'entreprise avec du parrainage, de la mise en réseau également et puis le financement qui consiste en un prêt d'honneur à taux 0% qui a pour objectif d'augmenter les fonds propres du dirigeant pour qu'il puisse solliciter plus facilement des prêts bancaires.
Il y a des besoins vraiment essentiels, des besoins qui font que votre réseau Initiative Île-de-France est indispensable aux entrepreneurs d'Île-de-France aujourd'hui ?
Bien sûr. Aujourd'hui, les banques font confiance aux entrepreneurs, mais font confiance encore davantage quand ils sont accompagnés. Et le réseau Initiative apporte quelque part un label. Parce que justement, on a tout cet accompagnement qui est fait en amont. On rassemble autour de nous des experts, des avocats, des chefs d'entreprise, des représentants du monde financier. Donc tout un panel d'experts qui étudie les dossiers et qui suit aussi l'entrepreneur et qui fait en sorte que l'entrepreneur n'ait pas la tête dans le guidon. On a un taux de pérennité qui est à 90% pratiquement à 3 ans, ce qui est assez exceptionnel, non pas parce qu'on les sélectionne très bien en amont, mais tout simplement parce qu'on les suit. Et suivre les entrepreneurs, accompagner les entrepreneurs, c'est un gage de réussite et de succès pour les entreprises. Donc, on a un label pour ça.
Vous confirmez, Leslie et Geneviève, Annabelle ?
Oui, Annabelle. Je pense que le suivi, c'est indispensable.
Oui, tout à fait.
On se sent moins seul parce que ce n'est pas simple d'être femme, justement, mère, et puis monter un projet.
Parce que vous êtes partie de rien, toutes les trois, vous ne connaissiez pas du tout ce monde-là ?
Non, pas du tout.
Geneviève, vous ne connaissiez pas. Leslie ?
Non, pas du tout.
Alors moi, au contraire, j'ai plutôt évolué uniquement dans ce monde. Donc voilà, c'était un peu différent. J'avais déjà un réseau qui m'a permis de développer assez rapidement mon entreprise.
Alors on va commencer par vous, Annabelle Grosset, lauréate de la catégorie entreprise responsable. Vous êtes fondatrice d'Apagéon. Apagéon, qu'est-ce que c'est ?
Alors Apagéon, c'est une entreprise solidaire d'utilité sociale qui a pour objectif de réduire les inégalités d'accès à la pratique d'activité physique. On s'adresse à tous les publics à besoins spécifiques et on leur permet, à domicile, en entreprise, en établissement spécialisé, d'avoir une pratique d'activité physique pour leur santé.
Qu'est-ce qu'on appelle public spécifique ? C'est public en situation de handicap ?
Alors, je dirais que c'est la situation de handicap, c'est un générique. Spécifique qui va dépendre de chaque personne et de ses besoins propres. Donc, le public à besoins spécifiques, c'est ce public-là dans diverses situations de handicap. Nous, on a du handicap physique, du handicap mental. On travaille aussi avec, par exemple, des bébés en crèche. Pas forcément des bébés en termes de handicap au sens où on l'entend en général, mais ce sont des bébés qui ont des capacités à développer et qu'on aide à ça.
C'est-à-dire, vous faites quoi avec tes bébés en crèche? On a du mal à imaginer.
Avec tes bébés en crèche, on développe la psychomotricité et tout ce qui va permettre un meilleur éveil et une attention soutenue après, quand ils vont entrer à l'école.
Donc, c'est une entreprise à pas de géant, c'est ça? Vous avez un statut d'entreprise?
Exactement, on a un statut d'entreprise. On est une SAS de l'ESS, donc de l'économie sociale et solidaire.
Et ce sont les crèches qui vous payent, qui font appel à vous?
Ça oui, se passe on travaille, c'est un de nos clients qui travaille pour les crèches. Et donc, nous, on intervient pour ce client.
Voilà, donc vous n'intervenez pas seulement pour les tout-petits, mais aussi pour les seniors,
exactement.
J'imagine.
On travaille aujourd'hui de la crèche à l'EHPAD.
Oui,
voilà. C'est plus simple avec toutes les situations de vie qu'on peut rencontrer entre ces deux pôles un peu à l'opposé de la courbe. Voilà.
Un particulier peut faire appel à vous?
Exactement, un particulier peut faire appel à nous. Notamment, on a aujourd'hui pas mal de bénéficiaires qui sont en situation d'affection de longue durée, par exemple. Donc en cancer ou en rémission de cancer, avec du diabète de type 1 ou de type 2. Et donc ces personnes, elles n'ont pas forcément d'accès à la pratique d'activité physique parce que c'est plus compliqué pour un club, ce n'est pas forcément aussi simple que ça à gérer. Et puis nous, on va intervenir sur des créneaux qui vont les arranger la plupart du temps en individuel à domicile, ou alors on a des créneaux aussi dans notre salle dans le 91.
Vous êtes dans le 91, donc oui. Vous pouvez accueillir les gens pour des activités sportives.
Exactement, oui.
Des activités de psychomotricité, de remobilisation.
C'est ça, on a été sollicité par les médecins d'une maison de santé sur l'agglomération du Val-d'Hier-Val-de-Seine. Et donc, on intègre cette maison de santé où on a une salle de 70 mètres carrés où on peut accueillir des groupes. Alors, on reste dans la personnalisation de l'activité. Donc, ça ne sera pas des groupes de Zumba à 50 ou 100 personnes. Ce sont des groupes d'activité physique avec un maximum de 8 personnes pour respecter les spécificités de chacun.
Et qui sont les particuliers qui font appel à vous?
Ils ont vraiment tout âge, tout horizon. Et puis, c'est aussi ça qui est intéressant pour nous, c'est que c'est un brassage du public. On n'est pas spécialisé dans une activité. On est aujourd'hui en mesure de répondre à énormément de besoins. On a créé quand même 9 emplois donc sur ces 2 ans d'existence en CDI. Donc, c'est pour nous aussi une façon de professionnaliser notre métier d'enseignant d'APA.
Mmh. Il y avait un besoin, justement, vous avez créé APA de Géant parce que vous sentiez qu'il y avait un besoin?
Comme je le disais tout à l'heure, moi, j'ai évolué dans ce milieu, hein, dans le milieu du médico-social, puis après en milieu fédéral, à la Fédération de sport adapté, qui est l'autre fédération paralympique, celle qu'on connaît moins. Et donc, dans ces deux milieux, j'ai bien constaté qu'il y avait des problématiques qui n'étaient pas résolues avec les structures qui étaient existantes. Donc, quand c'est trouvé l'opportunité de créer cette entreprise, je n'ai pas trop réfléchi, en fait.
Et comment avez-vous créé cette entreprise?
J'ai créé cette entreprise sur l'idée qu'on pouvait être un maillon entre le milieu médical et le milieu de la société ordinaire. On a tous, à un moment ou à un autre, une situation de handicap à laquelle on doit faire face. Et ça a démarré parce que moi, j'ai eu un accident pendant mon sport. J'ai été arrêtée pendant 6 mois. Et je me suis dit, si je devais rester comme ça toute ma vie, je ne pourrais plus jamais faire de sport. Et du coup, j'ai réfléchi et c'est de là qu'est née cette idée. En plus, j'ai ce métier entre les mains qui est celui d'enseignant d'APA avec une formation à Bac+5. À la fac de sport, qui me permet vraiment d'intervenir sur ces publics. Donc voilà, ça, toutes les cartes étaient en main pour pouvoir construire quelque chose. Alors, on reste un ovni, hein, aujourd'hui. On existe dans ce milieu, mais personne ne sait très bien si on est du sport ou si on est du médical. Et nous, ça nous convient, parce qu'on n'est ni l'un ni l'autre, mais on est les deux à la fois.
Oui. Et comment êtes-vous venue à participer à Créatrice d'Avenir?
Alors, le concours est quand même un concours reconnu qui permet d'avoir donc ce suivi dont on parlait tout à l'heure avec la possibilité, et nous, c'est ce qui nous intéressait, d'avoir une visibilité, de faire connaître nos actions parce que malgré tout, on reste tout petit et débutant. Et donc, je dirais que grâce à ce concours, on prend la mesure du chemin parcouru depuis le démarrage et je pense que effectivement, si au début, j'étais plutôt une entreprenante, aujourd'hui, je suis plutôt une entrepreneur.
On va faire une pause, Annabelle, on revient tout de suite après.
Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
Et jusqu'à 11h30, nous parlons du concours Créatrice d'Avenir. Le concours avec une attribution de prix en décembre, tout dernièrement. 6 femmes qui ont été récompensées. Parmi ces 6 femmes, il y en a, on en a 2 autour de cette table aujourd'hui. Annabelle Grosset et puis Leslie Marel, fondatrice de Biomarel. De Biomarel, on va en reparler. Elle est autour de la table. Et puis également Rudy Deblaine qui est à l'initiative de ce concours Créatrice d'Avenir. Il est délégué général d'initiative d'Île-de-France. Alors ce concours, Rudy Deblaine, qu'est-ce qu'il apporte? On a vu que Annabelle Grosset nous explique un petit peu ce qu'il lui a apporté pour sa création d'Appât Géant. On verra tout à l'heure ce qu'il a apporté à Leslie et puis ce que la participation à ce concours a peut-être apporté à Geneviève Caillé, fondatrice d'Actif. Mais en général, qu'est-ce qu'il apporte ce concours?
Alors, déjà, quand on parle d'entrepreneuriat féminin, on s'intéresse à la place des femmes dans la société, la place des femmes tout simplement dans la société. Et fort est de constater qu'on n'a que 30% de femmes qui créent leur entreprise. Donc l'égalité, la parité homme-femme n'est pas du tout présente dans l'entrepreneuriat féminin. Donc le concours Créatrice d'Avenir, justement, est là pour valoriser les femmes chefs d'entreprise, faire en sorte qu'elles soient beaucoup plus visibles qu'elles ne le sont. Il y a beaucoup d'activités qui sont créées par les femmes. 30%, ce n'est pas non plus négligeable. Hein. Ça veut dire qu'il y a quand même un bon panel d'entrepreneurs femmes. Mais ce n'est pas suffisant. Et donc, nous, on veut mettre en avant, valoriser, montrer l'exemple, en tout cas, aux autres femmes pour qu'elles puissent aussi avoir envie de créer leur entreprise. Donc, c'est valoriser les femmes, promouvoir les femmes entrepreneurs et les accompagner aussi à travers différents prix dans le développement, la création de leur entreprise. Donc on a 6 prix au total, 6 prix où on récompense les femmes avec des dotations financières et des dotations d'accompagnement. C'est au total 60 000 euros qui correspondent à 30 000 euros de dotations financières et 30 000 euros de dotations d'accompagnement qui sont valorisées.
Annabelle, par exemple, vous avez reçu l'un de ces prix. Financièrement, c'est intéressant, ça vous aide beaucoup?
Forcément, quand on démarre, toute aide financière est bonne à prendre. Mais c'est surtout que nous, on avait décidé de participer à ce concours pour la visibilité d'Appât Géant et des actions de l'entreprise. Donc, la dotation financière, elle est consacrée aujourd'hui à l'embauche de quelqu'un qui va nous faire un plan de communication, qui va nous permettre aussi d'améliorer notre présence sur les réseaux sociaux ainsi que notre site internet.
Et qu'est-ce qui a fait, Rudy Deblaine, que l'entreprise Appât Géant d'Annabelle Grosset a remporté le prix de la catégorie entreprise responsable?
Ce qui nous a intéressé, c'est vraiment cette dimension de solidarité, quelque part, qu'elle expliquait très bien. C'est cette dimension solidaire, le handicap également, la thématique autour du handicap qui touche tout le monde. Elle a très bien expliqué, ça va du bébé à l'adulte, à la personne beaucoup plus âgée. Et donc, c'est toute cette solidarité qui incarnait bien le prix entrepreneur responsable.
Et puis, je me tourne vers Leslie Marel, fondatrice de Biomarel. Justement, qu'est-ce qui a fait que vous avez attribué un prix à Leslie pour Biomarel?
Biomarel et Leslie, en tout cas, sont toujours dans la catégorie innovation. Donc, il faut rappeler qu'on a 6 prix qu'on remet. Un prix autour de la catégorie innovation, un prix sur l'audace au féminin, un autre sur les savoir-faire, un autre sur les entreprises responsables, pardon, et un trophée sur les quartiers. Donc, Leslie faisait partie de la catégorie innovation et elle expliquera tout à l'heure de toute façon, mais elle a une entreprise innovante, on va dire, qui s'appuie sur la technologie qui était assez remarquable et qui s'est vraiment distinguée des autres lauréates.
Mais elle expliquera beaucoup plus. Justement, Leslie, expliquez ce que vous faites. Qu'est-ce que Biomarel?
Alors, Biomarel, c'est avant tout une rencontre. Voilà. On a rencontré une personne qui est toujours atteinte de la maladie de Charcot, il y a maintenant plus de 2 ans. Et c'est de cette rencontre qu'on a vu sa difficulté à utiliser l'ordinateur, parce qu'elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait pas utiliser une souris comme vous et moi. Et si vous voulez, on l'a aidée, donc avec mon associé, on l'a aidée à utiliser l'ordinateur avec la technologie. Donc, on a essayé de trouver ce qui existait d'abord sur le marché.
Alors, un petit aperçu, la maladie de Charcot, un petit mot, c'est...
C'est une maladie neurodégénérescente. Donc, c'est une paralysie ascendante. Ça part de l'orteil, ça remonte au fur et à mesure du temps. En général, la durée de vie est plutôt de 2 ou 3 ans. Elle l'a depuis plus de 10 ans. Donc, comme quoi, il y a aussi des miracles. Donc, c'est une pathologie très lourde, très handicapante. Et c'est de ce constat des contacteurs Donc, c'était des solutions technologiques qui permettaient d'utiliser la souris sur l'ordinateur, qui n'étaient pas adaptées pour elle. Donc, on a essayé de trouver d'autres technologies que la souris telle qu'on la connaît, et on lui a développé le BM Connect qu'aujourd'hui nous allons bientôt lancer, qui associe le gyroscope et trois autres contacteurs, optique, souffle ou mécanique, donc qui permet vraiment à une personne handicapée avec un lourd handicap moteur, hein, en l'occurrence, de pouvoir utiliser sa tête et de contrôler l'ordinateur, une tablette ou un smartphone. Donc, on vient en déplaçant la tête, déplacer la souris et en validant notre choix. Donc, le fameux clic qu'on fait, gauche ou droite, on peut le faire avec le sourcil grâce à l'optique, avec le souffle ou avec un mouvement de menton grâce au mécanique. Donc, c'est vraiment cette solution tout en un qu'on a proposée à cette personne en premier. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y a plein d'autres cas et on a élargi notre cible au fur et à mesure des rencontres qu'on a fait.
Alors, est-ce qu'elle peut tout faire avec cette
application ? Elle peut surtout aller sur... Alors, elle utilise l'ordinateur, elle va sur Skype, sur Facebook. Donc, elle utilise vraiment, comme nous, on pourrait le faire sur notre téléphone. Elle peut décrocher ou raccrocher aussi. Alors, si tant est qu'elle peut parler correctement, mais elle peut décrocher et raccrocher avec son téléphone ou écrire des SMS. Donc, elle peut vraiment avoir une autonomie qu'elle n'avait pas et communiquer, parce que la communication est très, très importante dans ce milieu. Souvent, on se retrouve isolé. On a peut-être l'aidant, c'est souvent le mari ou la femme. Mais après, pour communiquer avec les autres, c'est plus compliqué.
Et comment fait-elle pour écrire un texte ? Ça doit être très long. Elle choisit chaque lettre ?
Alors, on a des solutions. Aujourd'hui, on a la technologie qui est quand même bien avancée. Donc, sur un téléphone, que ce soit Android ou Apple, on a des méthodes de défilement qui existent. Donc, ça va défiler chaque ligne de l'écran. Et avec un mouvement de validation, donc, comme je disais, souffle, mécanique ou optique, on va choisir la ligne, puis la lettre de la ligne, et ainsi de suite par défilement pour écrire. Ça peut paraître très long, mais c'est toujours mieux que de rien dire.
Effectivement, oui. Et oui, parce qu'elle ne pourrait absolument pas communiquer sans aide extérieure.
Exactement. Ou alors avec un système très très long qui est de valider avec les yeux si c'est oui ou non en fonction de la lettre. Donc on peut épeler 26 lettres de l'alphabet, ça peut être très long pour écrire un mot.
Effectivement.
Donc on a toujours cette rapidité grâce à notre solution et leur donner un tout petit peu d'autonomie.
Et cette solution, elle est accessible facilement ? Comment ça se passe ? C'est sous forme physique ? C'est un logiciel ?
C'est un dispositif qu'on met sur une lunette ou avec un serre-tête si on ne dispose pas d'une lunette. Donc c'est un dispositif électronique. Qui a son gyroscope et auquel on vient clipser le contacteur de validation qu'on a choisi. Donc nous, on offre une solution en kit. Donc le bricolage que les aidants faisaient souvent, les ergothérapeutes des fois, on avait un contacteur, on en avait un deuxième, et puis on bricolait comme on pouvait pour avoir une fonction complète. Nous, on leur donne une solution totalement complète. Donc ils bricolent, mais c'est autorisé. Avec un logiciel qui permet aussi de valider ou de désactiver tel ou tel contacteur avec la sensibilité et le réglage. Donc vraiment une solution totalement complète.
Et ça revient à combien ça ?
En termes de prix ?
Oui, en termes de prix.
Alors on le vend aujourd'hui à 999. Donc, essentiellement on le vend aux associations de patients, parce que c'est eux qui vont le redistribuer derrière. On peut aussi le vendre aux particuliers. Donc en général ils nous contactent et on voit avec eux s'il y a des solutions qu'on peut mettre en place de financement qui existent aussi. La MDPH peut prendre en charge une partie. Bon, le dossier, des fois, peut être un peu long, on peut toujours s'arranger. Voilà. L'idée, c'est vraiment que ça soit accessible au maximum de personnes.
Et vous l'avez créé quand, Biomarel ? Ça date de quand ?
Alors, Biomarel, c'est tout jeune. Hein. C'est de mai 2018, donc c'est assez, assez récent. Moi, je travaille sur ce projet depuis plus d'un an. J'ai été salariée, donc je travaillais sur mon temps libre. Week-end, congé. Après, j'avais plus de temps libre. Donc, j'ai décidé de me mettre à temps plein depuis septembre 2018.
Voilà. Et vous avez décidé de participer au concours Créatrice d'avenir.
Oui. Donc, j'avais entendu parler de ce concours qui mettait effectivement en valeur l'entrepreneuriat féminin. Mais je n'étais pas encore créée, donc je ne pouvais pas postuler. Quand j'ai été créée, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, bon, bah, maintenant, c'est mon tour, je vais y aller. J'attendais de ce concours vraiment une visibilité et une crédibilité. Parce que c'est pas évident d'aller voir des banques, des investisseurs ou simplement des personnes qui sont dans leur milieu respectif, même dans le médical, et de leur dire, voilà, on a fait ça, ça fonctionne. Oui, mais vous avez déjà fait une entreprise, vous n'avez pas 30 ans. Enfin, il y avait toujours des barrières. Ou alors, vous êtes une femme. J'ai aussi entendu ça. C'est assez,
Oui.
Donc, je me suis dit qu'avec ce concours, on pourrait crédibiliser l'entrepreneuriat féminin, dire, ils m'ont fait confiance, je ne vois pas pourquoi vous ne nous faites pas confiance. Donc, c'est vraiment ce que j'attendais en participant à ce concours.
Vous avez senti, je m'adresse à vous trois, Annabelle, Leslie et puis vous, Geneviève, on n'a pas encore expliqué ce que vous faites, mais on va le faire. Vous avez senti que ce, la participation à ce concours, alors peut-être moins vous, Geneviève, puisque vous n'avez pas eu le prix, mais la participation à son concours vous apportait dans vos démarches financières, dans vos démarches administratives, dans vos démarches auprès de potentiels investisseurs ou clients?
Moi, je suis finaliste. Je suis quand même arrivée dans les 15 finalistes, donc ce qui est quelque chose de
sur
pas mal.
Sur 700 et quelques?
Sur 720, voilà. Donc, c'est déjà pas mal. Bon, j'ai eu Appa de Géant, malheureusement pour moi.
Appa de Géant qui vous a
battu. C'est Appa de Géant qui m'a piqué mes sous. Non, c'est... Mais et puis, nous, c'est un petit peu différent. On est une association, donc on n'a pas tout à fait le même vue. Mais c'est vrai que depuis, rien que le fait d'être finaliste, ça nous a apporté beaucoup de visibilité. Et dans notre secteur, donc surtout dans le Val d'Oise, où on est très, très bien accompagné par Initiative 95, ça commence à nous ouvrir des portes. Et je vois que depuis le début de l'année, ça se bouge pour l'association et ça nous aide beaucoup.
Alors, lorsque vous allez dans une banque pour faire un prêt, vous le mettez en avant, c'est ça?
Alors,
c'est nécessaire?
Non seulement je le mets en avant, mais le fait aussi qu'on est appuyé et accompagné par Initiative 95 nous ouvre un peu plus des portes, rassure un petit peu le banquier. Bon, nous, on n'a pas encore obtenu nos prêts, mais bon, ça va se faire. Parce que je pense que c'est plus complexe pour une association que pour une entreprise. Donc, il faut qu'on soit atypique, c'est normal. Mais c'est vraiment important pour nous. Puis on a un sentiment qu'avec Créatrice d'Avenir, il y a eu un réseau qui a été mis en place. Ils ont créé vraiment des contacts, donc on a fait des contacts. Et bon, là, moi, j'ai le plaisir d'avoir rencontré des personnes qui sont dans le même domaine que moi, avec qui je vais pouvoir travailler après. On se complète les uns les autres. Et je pense que ce réseau-là est très fort parce qu'on n'est pas tout seul, on est tous ensemble et ça nous permet d'avancer comme ça.
Mmh, vous parlez de Leslie?
De Leslie, entre autres, mais même aussi
d'Annabelle,
parce qu'on se complète, pour moi. On est dans la succession des choses logiques.
Voilà, on voit vraiment la nécessité de ce prix Créatrice d'Avenir. On continue d'en parler avec vous trois et vous, Rudy. On continue d'en parler aussi avec Jean-Christophe Loza, qui n'a pas encore pris la parole, mais qui va intervenir dans la deuxième partie de cette émission.
Vivre FM, c'est vous. Jusqu'à midi, Carole Clémence.
Jusqu'à 11h30 dans Vivre FM, c'est vous. Nous parlons de l'édition 2018 de Créatrice d'Avenir avec des créatrices qui sont présentes, des créatrices d'entreprises, de nouvelles entreprises et même d'associations. Donc on parle de l'entrepreneuriat des femmes. Est-ce que c'est plus compliqué pour les femmes que pour les hommes? Eh bien, on va le voir avec nos invités. Et Jean-Christophe Loza nous a rejoint. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour.
Vous êtes chargé de partenariat de l'association ACTIF,
H-A-C-T-I-F,
voilà, actif avec un H. Et vous êtes donc accompagné de Geneviève Caillé, qu'on va déjà présenter dans cette émission. Geneviève, quelle est la genèse de la création d'Actif?
Alors, Actif, c'est une idée que j'ai eue il y a à peu près 10 ans, suite à après un retour en invalidité, parce que je suis personne handicapée. Et je voulais savoir si je pouvais travailler avec mon handicap et aussi avec mes soins que je devais suivre. Le fait est que j'ai eu beaucoup de difficultés pour trouver du travail. J'ai eu des problèmes aussi d'insertion et j'ai voulu monter mon propre job du télétravail. Et j'ai voulu rentrer dans des espaces de coworking. À l'époque, c'était tout récent. Malheureusement, ces espaces-là ne pouvaient pas m'accueillir comme je voulais, ni une des personnes qui m'accompagnait avec moi, pour une des fondatrices.
Est-ce que vous avez besoin d'un aménagement?
Elle avait besoin. Voilà, moi, je ne pouvais pas m'asseoir sur les sièges ordinaires, surtout à l'époque, mes soins n'étaient pas finis, donc je ne pouvais pas m'asseoir partout, les déplacements étaient fatigants, etc. Donc, voilà. Et après des années de réflexion avec mes collègues et les deux autres fondateurs avec moi, et on a décidé, donc j'ai repris des études il y a 4 ans de ça, pour justement travailler dans les ressources humaines, et j'ai obtenu donc un master en ressources humaines dernièrement. Et j'ai décidé justement de faire ce que moi j'ai fait pour moi, le faire pour les autres. Donc Actif a revu le jour, il est revenu en avant, et c'est là qu'on a eu l'idée, en effet, de monter, en fait, entre les retours, surtout avec Initiative 95 aussi, et puis on est aussi accompagné par la Why Not Factory du groupe IGS, qui est un incubateur, qui nous ont dit, mais c'est vous l'espace de coworking pour les personnes handicapées. Alors au départ, ce n'était pas ça. Au départ, on était des accompagnants. On voulait accompagner les personnes handicapées dans la réinsertion professionnelle en prenant en compte l'évolution de leur pathologie. Ce que pour l'instant, on ne fait pas. Et c'est très important pour les personnes de savoir que dans 2 ans, elles pourront toujours travailler, même si leur pathologie évolue. Donc, à force d'entendre ça, on a dit oui, on va lancer cet espace de coworking, on va se lancer. Donc, c'est comme ça que Jean-Christophe nous a rejoint ensuite, justement, pour nous aider à développer cet espace. Et là, on est heureux de pouvoir dire qu'on met en place le premier espace de coworking qui est non seulement accessible, ça c'est logique, mais aussi adapté et aménagé pour tout type de handicap. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment de réfléchir aux différents handicaps qui sont moteurs, sensoriels, pour répondre à leurs difficultés, pour permettre aux personnes qui vont venir chez nous, donc nous on les appelle les handi workers, qui vont venir chez nous, poser leur handicap et se dire je ne vais pas pouvoir m'asseoir, je ne vais pas faire ceci, donc je vais pouvoir travailler chez Actif et avoir un espace pour moi qui va me permettre d'avancer, de mettre en place mon projet.
Donc cet espace de coworking, il se trouve chez vous à Actif ?
Alors il se trouve à Cergy, du moins il va se trouver à Cergy pour l'instant, on est en travaux, parce que ça ne se fait pas comme ça d'avoir un espace aménagé. On a des travaux à faire, donc ça se trouve à Cergy, rue des Genottes, à côté de Cergy-Saint-Christophe. Donc on est à 5 minutes de la gare, on est dans un immeuble qui est entièrement, bien sûr, pour les personnes PMR, donc personnes à mobilité réduite. Et on prépare l'espace avec du mobilier adapté et on va aussi informatiser notre espace. Donc là, c'est pour ça que je dirais voir Leslie sûrement après, pour avoir ces fameux sourires, voir comment on pourra mettre ça en place chez nous aussi. Donc vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'intérêt c'est de travailler tous ensemble et mettre en place des outils informatiques parce que le handicap, non seulement on a des problèmes pour avancer, mais aussi on n'a pas d'argent pour avoir des outils.
Mmh. Leslie Marel, par exemple, vous pourriez vendre votre produit à Geneviève Caillé pour Actif ?
Oui, tout à fait.
Ça pourrait fonctionner dans un espace de coworking ?
Oui, parce que ce sont des souris portables, hein, je dirais, qu'on emmène avec soi et qui s'adaptent vraiment à tout type de handicap moteur, tout stade aussi, c'est important. Donc oui, ils pourraient très très bien équiper n'importe quel handi worker dans l'espace Actif.
Mmh. Cet espace, donc, il va être aménagé avant même de connaître toutes les personnes qui vont y travailler.
Voilà. Ça, c'est notre grand challenge, justement, c'est de penser au maximum de possibilités par rapport au handicap différents qui existent, parce qu'il y a aussi les handicaps. Moi, je suis plutôt handicap moteur, donc ça, je connais bien, mais il y a aussi tous les handicaps sensoriels, donc visuels et auditifs. Et on se fait accompagner par d'autres associations, comme l'APF, bien sûr, par l'association Remora, pour les personnes dans handicap sensoriel, pour justement répondre au maximum de demandes. Bien sûr, on ne pourra jamais être pour la personne même, mais on va aller le plus loin possible dans ces aménagements pour être le plus possible généraliste et répondre au mieux aux différentes demandes qu'on pourrait avoir.
Mmh. Alors Jean-Christophe Loza, cet espace de coworking, que va-t-on y faire ? On va y travailler, bien sûr, mais qui va y travailler ? Pour qui ? Pourquoi ?
Alors, donc, bien sûr, on va y travailler et on va voir l'ensemble des secteurs qui vont être représentés, que ce soit donc l'informatique, donc ça peut être des informaticiens, des développeurs, ça peut être aussi des journalistes, ça peut aussi être des professionnels de la santé. En fait, tous ceux qui vont avoir besoin donc, d'un bureau, mais qui, là, pour le coup, avoir un bureau qui puisse être adapté à leurs besoins. Et donc, ça peut être à la fois des indépendants, mais aussi également des gens qui seront salariés dans d'autres sociétés et qui auront donc besoin d'un lieu adapté, parce qu'on est aussi mission handicap, ce que Geneviève ne vous a pas encore dit. On est aussi mission handicap. Donc, on accompagne à la fois les PME et les salariés pour pouvoir être dans les meilleures conditions possibles dans leur emploi.
Mmh. Vous avez déjà des personnes qui sont intéressées ? Vous savez déjà qui va travailler en partie chez vous ?
Alors oui, on a déjà quelques personnes et puis la liste s'allonge de jour en jour pour pouvoir travailler. On a pour l'instant des graphistes et plutôt tout ce qui est community manager, voilà, pour le moment. C'est beaucoup ce profil-là pour le moment.
En plus de ça, bon, c'est vrai que je n'ai pas parlé de la mission handicap. Ça fait partie aussi, on veut être un peu comme un pas de géant qui se demandait être le lien entre le médical et paramédical et les sports. Nous, on veut être le lien entre les personnes handicapées et l'emploi. Mais surtout, ça, j'insiste beaucoup en prenant attention à l'évolution de la pathologie. C'est pour ça aussi qu'on va travailler aussi avec la médecine du travail et toutes les associations, parce qu'il n'est pas question que nous, on ne va pas proposer quelqu'un à une entreprise. On sait pertinemment que dans 2 ans, malheureusement, sa pathologie évoluera et ne pourra pas continuer. Et c'est pour ça que nous, on spécialise surtout dans les métiers du numérique, parce que c'est un très bon moyen de favoriser le télétravail en plus et de permettre à une personne handicapée de se réinsérer plus facilement et en douceur avec le télétravail.
Alors pour être très clair, le coworker qui va venir travailler dans notre espace de coworking, il a déjà un emploi, il a déjà une entreprise ou l'aider à...
Alors pas forcément, il y a deux possibilités. Soit c'est, comme disait Jean-Christophe, un indépendant, il crée son entreprise ou il travaille déjà. Soit il vient, on héberge des salariés, on va pouvoir héberger des salariés des entreprises qu'on accompagne. Je précise bien qu'on accompagne parce qu'il est hors de question qu'une entreprise se dédouane en mettant chez nous leurs salariés handicapés. On les accompagne.
Et vous pensez que ça peut se produire ?
On a déjà eu des demandes.
Oui,
vous avez eu des demandes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vous dit ?
La personne me dit c'est bien, je vais pouvoir mettre chez vous, prendre une personne handicapée de chez vous et puis vous me la gardez.
On vous dit ça, vous me la gardez ?
Pas aussi brutement quand même. Je veux dire que les gens mettent un peu plus de termes. et d'élégance dans ce qu'ils disent, mais c'est clair, net et précis. Quoi. Ils ne veulent pas, ils n'ont pas conscience que le fait de faire venir quelqu'un chez eux qui ait une situation handicap, quelle qu'elle soit, va valoriser leur entreprise, va valoriser les compétences de tous les salariés qu'ils ont autour d'eux, va valoriser la mixité, va valoriser l'innovation, l'imagination. Et ils n'en ont pas conscience de ça. Donc nous, notre job avec Actif, c'est justement d'en faire prendre conscience aux entreprises et leur dire, bah, on va accueillir votre salarié le temps que vous, vous vous formiez, que vous vous prépariez, on va vous aider, on va vous former, on va vous accompagner à accueillir, à savoir être comme il faut avec la personne. Et on va accompagner les deux personnes, entreprise et travailleur handicapé.
Et cette personne peut se sentir exclue si elle vient chez vous, si elle n'est plus dans l'entreprise, il n'y a pas ce risque ?
Alors, ça peut être un risque. C'est pour ça qu'on va garder un contact permanent avec les entreprises. Et c'est pour ça que je dis que c'est du temporaire, que ce n'est pas vraiment quelque chose de permanent. Et nous, notre cœur, c'est qu'on est, en fait, on veut se considérer comme la mission handicap des petites PME. On vise les petites PME, les petites entreprises, et on va se mettre dans leur cœur de métier. Donc, ça veut dire que la personne qu'on va héberger le temps qu'elle retourne dans son entreprise, on va réagir comme si on était vraiment avec l'entreprise. On sera la mission handicap de cette entreprise, donc elle aura toujours les contacts avec son entreprise, elle aura toujours la possibilité d'avoir son manager, etc. Exactement comme si elle était chez elle en télétravail.
Jean-Christophe, vous êtes chargé des partenariats, c'est difficile d'expliquer à des gens qui n'y connaissent rien ce que vous faites ?
Effectivement, c'est pas facile, mais je pense qu'on est dans un contexte plutôt favorable, justement, pour parler du handicap, parce que... En ce moment, on est quand même dans une période où le handicap est quand même à la mode, même si c'est un mot que je mets entre guillemets, mais il faut bien surfer sur les bonnes vagues hein, quand il y en a, et donc celle-ci en fait partie, parce qu'il y a quelques années, le handicap faisait peur. Là, en ce moment, ça s'écoute avec une oreille attentive. Après, bon, ils ne comprennent pas forcément, mais on est là justement pour les éclaircir, et ils sont intrigués, et il faut répondre aux multiples questions. Et là, par contre, effectivement, parfois, c'est difficile parce qu'ils confondent un petit peu tout quand ils sont peu dedans.
Voilà. Est-ce que on va parler des freins qui sont liés à la création d'entreprises ou d'associations par des femmes. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus ? Est-ce que vous avez vu des choses, justement, avec Actif ? Vous avez vu des freins liés à la...
Oui, parce qu'effectivement, comme disait Geneviève tout à l'heure, je connaissais déjà l'existence de son pré-projet parce qu'on se connaît déjà depuis un certain temps. Voilà. Même si je le rejoins maintenant, ça ne fait pas qu'un an qu'on se connaît. Il y a quand même une bonne petite dizaine d'années qu'on se connaît, si ce n'est plus. Donc, effectivement, j'ai eu certains de ces retours parce que j'ai toujours un petit peu suivi comment évoluait le projet. Voilà, c'est aussi pour ça que j'y suis maintenant beaucoup plus dedans. Je n'ai pas rejoint comme ça, mais effectivement, c'était souvent beaucoup de non-dits. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont non-dits. Mais et puis, moi qui évolue dans beaucoup de secteurs, donc du coup... il suffisait d'avoir un ou deux mots et j'ai oula, ça c'est plutôt ça en fait, c'est que c'est une mauvaise réponse.
Par exemple,
là j'ai pas forcément d'exemple en tête, mais par exemple, quand tu as cherché des lieux, ça aussi elle a eu des freins, voilà, énormément. Et je sais que c'est parce que c'est une femme qui l'a demandé. Voilà,
oui, c'est vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Ouais. Et quels sont les freins ? Alors justement, le fait d'être une femme, c'est vraiment un frein ? Je me tourne vers vous, Geneviève, et puis vous, Leslie, c'est vraiment un frein ? Vous l'avez senti ?
Oui, je l'ai senti dans certains rendez-vous. Il y a eu des rendez-vous où, dès le début, où ils ont vu que la fondatrice, donc, c'était une fondatrice, et ben il y a quelques réticences à dire oui, mais si demain vous avez des enfants, est-ce que vous allez pouvoir développer votre entreprise ?
C'est toujours les enfants ?
C'est toujours les enfants qui reviennent. On dirait que le handicap, c'est l'enfant. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Des investisseurs qui nous donnent moins de crédibilité que si on avait été, si on avait eu 40 ans, qu'on avait fait, je ne sais pas, une école de commerce, avec un parcours un peu type et élitiste. Ouais. Là, on aurait eu un peu plus de portes ouvertes. Donc ce frein, il est là, mais c'est à nous, je pense, en tant que femmes, de montrer que c'est plutôt une force et c'est pas du tout une faiblesse. Enfin, la féminité, je pense que c'est aborder le sujet comme le handicap de manière différente, donc avec un peu plus d'empathie peut-être. Voilà, donc tout ça, moi j'en ai fait plutôt une force aujourd'hui quand je vais les voir. Je dis oui, je suis une femme et oui, un jour j'aurai des enfants.
et alors, quelle tête ils font ?
Ils disent, mais j'ai rien contre ça. Bon, c'est pas grave, peut-être que si, peut-être que non. Mais en tout cas, dès les premières minutes, j'ai annoncé la couleur de la conversation. Comme ça, au moins, on parle du projet plus en détail.
Voilà, et on continue à en parler avec vous, Leslie, on continue à en parler avec vous, Geneviève, et puis Annabelle, Jean-Christophe et Érudy, on continue à parler de l'entrepreneuriat des femmes, et puis de prix Créatrices d'Avenir.
Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
Et nous parlons du concours Créatrice d'Avenir, le plus grand concours régional dédié à l'entrepreneuriat des femmes organisé par l'initiative Île-de-France. Donc la remise des prix a été faite en décembre, c'est tout récent. On a deux lauréates autour de cette table, Leslie Marel, fondatrice de Biomarel, lauréate catégorie innovation, et puis Annabelle Grossel, lauréate de la catégorie entreprise responsable, fondatrice d'Apat Géant. Et nous avons également une finaliste, Geneviève Caillé, fondatrice d'Actif, autour de la table. Et puis Rudy Deblaine, délégué général d'initiative d'Île-de-France. Nous parlons des freins qui font qu'une femme, pour une femme, c'est plus difficile que pour un homme de créer son entreprise. Leslie, vous nous expliquez que quand vous allez voir des personnes, des investisseurs ou des partenaires potentiels, c'est difficile. Vous le sentez, vous sentez que ça passerait mieux si vous étiez un homme.
Ah oui, je pense que ça passerait beaucoup mieux si j'étais un homme d'une certaine tranche d'âge en particulier, si j'avais fait une formation en particulier aussi. Il y a certains stéréotypes qui ne bougent pas, qui ont du mal. Donc, on m'a même dit, ça serait bien, l'entreprise est bien, mais mets un CEO homme peut-être qui a plus de 50 ans. Oui, pourquoi ? Enfin, voilà, c'est
les questions. Votre projet ?
C'est mon projet. Rien n'empêche. Je suis très ouverte pour que l'entreprise prenne la plus grande croissance possible. Donc, si on doit recruter quelqu'un, on le fera, mais pas de la manière dont c'est annoncé. Parce que j'ai vraiment l'impression que le projet est bien, mais ne serait pas bien porté forcément par moi. Donc, du coup, c'est compliqué. Alors, est-ce que c'est parce que je suis une femme ? Est-ce que c'est parce que j'ai moins de 30 ans ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a un peu des deux. Double handicap, c'est compliqué. Mais ces freins, je pense qu'ils vont être levés au fur et à mesure. Plus il y aura de concours de type créatrice d'avenir, je pense, plus on mettra en valeur le travail des femmes. Et peut-être qu'on verra qu'il y a une vraie spécificité à être une femme et être entrepreneur.
Et Geneviève, vous aussi, vous avez senti des freins au fait que vous êtes une femme qui crée son association.
Oui, c'est... Moi, j'ai eu la double punition, la triple punition entre femmes. L'âge aussi. Bon, moi, j'ai plus de 50 ans.
Donc, il faut avoir quel âge ?
Bah, je ne sais pas, Rudy. Il faut avoir quel âge pour être entrepreneur ?
Entrepreneur, on est plutôt dans la tranche d'âge, dans les moyennes autour de 40 ans. Voilà, évidemment, on reste après. Voilà, être un homme, voilà. Mais tout cela, effectivement, il y a une vraie problématique autour de l'entrepreneuriat des femmes. Il y a des interrogations sur les capacités financières, les capitaux pour démarrer. C'est pour ça aussi que le concours apporte aussi des financements particuliers. Il y a tous les stéréotypes avec les contraintes familiales. Question d'ailleurs qu'on ne pose pas aux hommes. Hein. Quand un homme va créer son entreprise, on ne lui demande pas ses enfants, comment il va faire, etc.
Effectivement.
Voilà, on devrait le poser si on pose ces questions-là aux femmes, on devrait aussi les poser aux hommes. Donc il y a toutes ces questions qui tournent autour de l'entrepreneuriat féminin. Pour autant, les femmes se considèrent, quand elles créent une entreprise, comme un entrepreneur ou entrepreneuse, comme les autres, en fait. Donc, c'est ce qu'on peut leur envoyer qui va faire, effectivement, qu'elles vont devoir se battre un petit peu plus pour convaincre, même si ça bouge et ça change. Hein, mais il y a toujours quelques personnes qui vont en face comprendre les choses différemment.
Et est-ce que c'est plus difficile aussi pour une femme qui a, par exemple, plus de 50 ans que pour un homme qui a plus de 50 ans ?
Oh oui, tout à fait.
Donc,
oui, complètement.
Tout est plus compliqué ?
Tout est plus compliqué.
Moi, je cumule.
C'est certain, c'est certain.
Et surtout quand vous n'avez pas les diplômes non plus.
Oui.
Quand il n'y a pas de diplôme, Leslie l'a lancé un petit peu aussi. Quand vous n'avez pas les diplômes en France, quand vous avez...
Et quel diplôme il faut pour...
Moi, comme je faisais de la réinsertion professionnelle, je faisais du bénévolat pendant des années, donc je n'étais pas ressources humaines, hein, je n'étais pas RH. Donc, il a fallu que je reprenne des études, que je fasse 4 ans d'études pour pouvoir avoir un master, pour pouvoir prouver que mes compétences personnelles sont devenues des compétences professionnelles. Et ça rajoute en plus à la difficulté d'avancer. C'est pour ça qu'on a mis 10 ans, à peu près 10 ans, pour lancer vraiment ce projet-là.
C'est un vrai frein, eh oui.
Eh oui.
Et alors, on n'a pas parlé vous l'avez évoqué, mais le handicap, vous avez un handicap, et ça, c'est aussi un frein.
Pourtant, c'est un frein.
Les gens, vous en faites état ou...
Alors, au départ, je n'en faisais pas état, parce que justement, avec les regards, avec les stéréotypes qu'on a, les préjugés, j'évitais trop d'en parler, et puis aujourd'hui, je l'assume. Et c'est ça ma force, c'est d'ailleurs notre phrase, c'est quand le handicap devient une force. Actif se base sûrement sur la force du handicap, parce que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on a des incapacités quelles qu'elles soient. On est des personnes avec des compétences professionnelles et c'est ça qu'on veut mettre en avant. Alors, d'abord, il faut que les gens prennent en considération que la personne a des compétences et ils ont de la chance, ces entreprises, parce que non seulement cette personne-là a des compétences, mais en plus de ça, elle est handicapée. Donc, ils ont énormément de chance.
Et il faut le présenter comme ça.
Et moi, je le présente comme ça.
Et ça marche.
Ça marche mieux.
Ça marche
avec
mieux.
Beaucoup d'humour et avec aussi... la façon de faire comprendre aux entreprises qu'elles sont à 100% gagnantes en agissant dans le bon sens.
Et oui, et oui. Et quelles sont les entreprises justement qui se rapprochent de vous, qui sont sensibles à ce discours ?
Alors, on a par exemple Malakoff Médéry qui commence à arriver vers nous aussi, qui nous propose de travailler avec eux, avec nous plus exactement. On a des groupes scolaires comme le groupe IGS, qui est un grand groupe de grandes écoles et qui fait un partenariat avec nous pour qu'on puisse accompagner les personnes, etc. Donc, on a beaucoup d'entreprises et puis les petites PME qui commencent à se dire « Ah ben oui, j'ai peut-être le moyen d'agir vu que la loi est en train de changer ». Et de répondre à mes obligations différemment.
Alors, vous m'avez parlé en antenne d'une campagne que vous menez. On va en dire quelques mots.
Je vais laisser Jean-Christophe en parler.
L'émission arrive à son terme, donc on va en parler tout de suite. Allez-y, Jean-Christophe.
D'accord. Donc, effectivement, on a la campagne Tudigo qui est lancée et dont on a mis en place pour pouvoir essentiellement équiper donc, l'espace de coworking. Parce que, comme vous l'avez compris, le handicap dit aussi argent, malheureusement. Puisque rien que pour un bureau... adapté, on est sur le minimum des prix de 2000 euros.
Ah oui.
Voilà. Et sur notre espace, ce qu'on compte accueillir, c'est au moins une douzaine d'handi workers. Donc, vous faites le calcul déjà. Rien que ça, ça fait déjà un certain petit coup.
Voilà. Et donc, cette campagne, elle est lancée. Et
donc, cette campagne, elle est lancée depuis déjà 2 mois. Donc, on compte sur maintenant nos présences un peu partout pour pouvoir la doper un peu, pour nous permettre d'équiper le maximum possible.
Vous avez une adresse plus d'informations ?
www.tudigo.co/actif. H-A-C-T-I-F.
Très bien.
Et autrement, vous pouvez tout à fait le faire de manière directe vers nous, puisqu'on a une page Facebook active à HACTI.
Très bien, merci voilà. Jean-Christophe Leza, merci Geneviève Caillé. Un dernier mot peut-être, Rudy Doblem, pour terminer cette émission.
Un dernier mot en tout cas, pour déjà remercier aussi tous les partenaires qui nous accompagnent, parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à mettre en place ce concours, les partenaires publics, préfecture, État, de manière générale, la Caisse des dépôts, les partenaires privés aussi qui apportent des prix, comme Air France, Groupama... Je ne vais pas tous les citer parce que je risque d'en oublier et ils ne seront pas très contents. La CCI également, donc tous les partenaires qui nous entourent. Et puis, on croise les doigts pour que ça continue, évidemment, et qu'on valorise encore davantage les femmes entrepreneurs.
Merci à toutes les trois. Merci à vous, Aurélie Deblen. Et merci de nous avoir présenté votre travail, vos entreprises et votre association. Merci.
Merci.
Vivre FM, podcast.